Chers auditeurs, je suis heureuse d'accueillir avec vous aujourd'hui Jacqueline Deroux, que nous avons accueillie déjà plusieurs fois ces derniers temps, avec l'idée d'explorer un peu cette époque qui est pas très lointaine, mais qui n'a pas été, ou qui a été, vous savez, c'est ce qu'il y a de plus proche qui est oublié parfois. C'est le moment entre ce qui se passe et puis l'histoire qui ne prend pas en compte ou qui ne regarde pas avec assez d'attention ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'il y a plusieurs récits, évidemment, de chaque chose. Alors donc, nous repartons vers un travail d'exploration de cette époque où vous avez, avec votre mari, créé les cahiers de Lerne, puis les dossiers H. Mais nous aurons ensuite, peut-être que Gérard Cogniaux nous rejoindra, parce qu'il a été dans cette histoire également, mais nous aurons après Brigitte Mathier qui va nous parler de sa pièce de théâtre qui se joue en ce moment à Montmartre, Le bourgeois gentilhomme. Et c'est le moment des vacances, c'est le moment où peut-être vos enfants ont la possibilité d'aller voir des choses importantes de la littérature, fort bien jouées. Et c'est un appel peut-être à leur faire découvrir le théâtre de Molière. Enfin, nous aurons Christine Surgens qui nous parlera de sa chronique et qui nous parlera aussi du livre sur la beauté qu'elle vient de publier. Jacqueline, donc nous avions cette idée d'explorer un peu ce monde littéraire, ce monde des idées qui s'étend en fait entre les années 60 et maintenant, avec une aventure qui commence d'une façon très forte dans les début des années 60, je crois que c'est 1966.
Début des années 60 pour les cahiers de Lerne, et puis ça s'est déroulé. Après, en 66, justement.
C'est un moment important parce qu'il commence à y avoir en France une sorte de guerre culturelle assez intense qui est beaucoup liée à la guerre froide, qui est liée à... Maintenant, cette guerre culturelle, elle n'est pas franco-française, elle est internationale. Et elle, tout ce qui se passe en France a une importance d'une certaine façon, et donc il y a des intérêts divergents, contradictoires, il y a des batailles. Et cette histoire des cahiers de Lerne et également des dossiers H font partie de cette histoire. Et c'est ça que nous voudrions éclaircir un peu plus profondément.
Alors, en effet, les cahiers de Lerne ont surgi au moment où se déroulaient les éditions avec Solers.
Oui. Donc,
et ça a
Philippe
été,
Solers, ça a été une bataille.
Une bataille
entre
avec,
Philippe Solers et
voilà.
Votre mari.
Tout à fait. Et la
Emmanuel
façon
Deroux.
Dont il envisageait la littérature et dont il l'a complètement bloquée. Et c'est vrai que les cahiers de Lerne et la façon dont Dominique a déroulé ses éditions ont favorisé quelque chose qui était enterré, carrément enterré. Et une autre forme d'écriture, une autre forme, alors que...
Et plus c'est-à-dire en fait, le grand clivage, c'était que vous aviez toute une gauche qui voulait un engagement politique de la littérature, et vous aviez la suite de la littérature qui dit la création est libre d'un engagement politique, ça va au-delà, ça ne se réduit pas.
Et de réveiller des voix très fortes comme Pound, qui avait traversé donc l'époque de la guerre, et de réveiller ces voix en les ressollicitant d'une façon tout à fait contemporaine.
C'est-à-dire que ces voix comme Ezra Pound avait été prise dans cette guerre culturelle et pas du bon côté par rapport aux idées de Solers à l'époque.
Oui.
Mais qui c'est quand même un très grand auteur.
Et qu'ils ont quand même considéré. malgré tout.
C'est difficile de ne pas le faire.
Oui, mais ils l'ont fait à cause de l'herbe, c'est sûr.
Donc, en fait, il y a eu cette volonté de défendre un certain nombre de talents qui étaient rejetés idéologiquement.
Oui.
Et qui avaient quand même une grande valeur littéraire qu'on ne pouvait pas nier.
Tout à fait. Dont le fameux Céline qui est sorti.
Qui était devenu le diable.
Le diable absolu et qui est ressorti avec. Des analyses différentes, avec, on l'a complètement réveillé, en quelque sorte, parce qu'il était vraiment, il n'était plus question de parler de lui, et il était enterré, même littérairement.
Ça a été le grand motif de fonder cette maison d'édition.
Il est arrivé en seconde position, parce que les premiers cahiers de Lerne conçu comme tel, c'est-à-dire avec des témoignages, des analyses, des textes retrouvés, etc. Ça a été le Céline, effectivement, avec la couverture qui est originale très structurée par Michel Bernard. Et donc, voilà, donc ça a été le Céline qui a donné structure au cahier.
À l'époque, il y avait encore une presse avec des contrastes où il y avait la possibilité pour tout le monde de s'exprimer.
Ah oui,
encore.
Tout à fait.
Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, ou ce qui n'a pas été le cas en tout cas pendant une quarantaine d'années. Mais dans les années 60-70, ça commence à se gâter. Au moment des années 80.
Oui, tout à fait.
Mais à cette époque-là, il y a eu un débat intellectuel, il y a eu un débat culturel.
D'ailleurs, il faut se souvenir des Lettres françaises, qui étaient des grands littéraires aussi. Ce sont des gens qui avaient vécu la guerre, qui avaient été parfois du même côté dans la Résistance, etc. Donc, il y avait effectivement un respect et une façon qui est inimaginable même maintenant, qui commence peut-être à avoir lieu et encore.
Et il y avait encore, en France, cette chose que tout le monde admirait dans le monde entier et beaucoup de gens venaient pour ça en France, il y avait un débat. Il y avait une vie littéraire, elle était contrastée, elle n'était pas du tout avec un consensus. Il y avait des gens extrêmement différents qui s'exprimaient d'une façon libre. Chose qui a disparu pendant un certain nombre d'années en France.
Absolument. Quand on y repense, c'était la fin d'une génération aussi. Et c'est des gens qui n'avaient absolument pas de parti, qui étaient passionnés par la
littérature.
Par la littérature et par le débat.
Alors, à cette époque-là aussi, il faut dire que l'intellectuel, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, avait un grand prestige en France, mais aussi dans toute l'Europe, dans tout l'Occident. L'intellectuel était une référence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que cette guerre a condamné beaucoup d'intellectuels. C'est parce que ce prestige du monde intellectuel était un peu politiquement gênant.
Ah, tout à
pour
fait.
Pour les grandes puissances la guerre.
Tout à fait. C'est un monde qui a petit à petit été repéré et attaqué. Quand il n'a pas disparu.
Alors, donc, ces cahiers de Lerne ont fait débat, mais évidemment, tout le monde connaissait les cahiers de Lerne, justement parce qu'ils faisaient débat, parce qu'on en parlait dans la presse, parce qu'il y avait des gens qui étaient d'accord, d'autres pas d'accord. Et ça donne une notoriété qui a permis au cahier de Lerne d'avoir un rayonnement international et qui a provoqué des inquiétudes.
Mais qui s'est inscrit d'une façon très intéressante dans les universités et qui a servi d'espèce d'université libre. Parce qu'il y avait au départ chez Dominique, dans la conception des cahiers de Lerne, justement, il ne donnait pas la voix à l'université, forcément. Parfois, il y avait des témoignages et des contributions, mais ce n'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était des témoins très variés, littéraires ou pas d'ailleurs. Ça pouvait être pour Céline son vétérinaire, hein, je dirais, des gens très 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 variés. Et ça, ça a donné une liberté de revoir la nature des gens et de leur écriture, etc.
Et c'est-à-dire aussi que c'est quelque chose qui a fonctionné avec un vrai public.
Oui.
Et non pas une légitimité donnée par une institution.
Ah, tout à fait, tout à fait. C'était vraiment pas une institution. C'était, je pourrais comparer parfois, je me souviens que justement pour la radio, France Culture a un peu joué ce... parce qu'il était structuré différemment.
Oui, à une autre époque.
Une autre époque, justement, on pouvait... librement proposer des émissions extrêmement variées.
Et il y avait un grand public.
Et il y avait un très grand public. Dans le moindre village breton, vous aviez des librairies, des écoutes extrêmement variées de gens qui étaient un peuple.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça a inquiété certaines puissances qui ont voulu se débarrasser des cahiers de Lerne et qui ont trouvé un moyen, une ruse pour s'en débarrasser, c'est de le racheter en donnant des bonnes intentions, et ensuite de le rendre sans intérêt.
Mais c'est-à-dire que ça a été un rachat, mais quand même qui est arrivé très tard.
Oui, alors on est là, effectivement, là, dans les années 80, je crois.
Oui, c'est ça. Même avant, puisque Dominique a perdu les cahiers de Lerne, donc ça a été une épreuve énorme. Non, en 76.
Donc, c'est le résultat d'une bataille. Ça a été le résultat d'une bataille, c'est le fait que votre mari et vous n'avez plus eu la main sur ces cahiers de Lerne.
On a perdu la majorité des... Voilà. Voilà. Oui.
Alors, à ce moment-là, vous allez avoir l'idée de faire autrement. Et de faire autre chose.
C'est-à-dire qu'on perd donc, ce qui était quand même absolument énorme, la possibilité de conserver
les archives,
les cahiers. Et donc, on se fait un procès à celui qui a racheté les actions, qui a donc pris une majorité dans notre dos, et on envisage de poursuivre. Et à ce moment-là, on gagne juridiquement le droit de reprendre, donc pas le titre même, mais dossier H, en conservant le H de Lerne, et de publier que c'est bien la suite des cahiers de Lerne dont Dominique a été le créateur, etc. Ça, on a eu le droit, et on a commencé... Juste avant sa mort, d'ailleurs, il est mort le 29 mars 1977, et on a eu le temps de bataille de faire un premier dossier H qui était Les écrivains et la guerre d'Espagne, et que Marc Henrez avait dirigé. Ensuite, il y en avait un qui était prêt, qui était le John Donne, magnifique John Donne, avec Jean-Marie Benoît, qui m'a aidé à le publier. Grâce à un éditeur, non, un imprimeur hérissé, j'oublierai pas, qui nous l'a offert, offert l'impression. Donc ça a été le deuxième dossier.
Dossier H.
Puis d'ailleurs, alors là, c'est là où il y a une histoire avec l'amitié et la très belle reconnaissance de Dmitrievitch. Vladimir m'a proposé de reprendre. Donc, ce début des dossiers H comme collection à l'âge d'homme, et de le poursuivre, cette collection dont on a donné.
C'est donc de cette partie de l'histoire dont nous allons parler très particulièrement aujourd'hui. Mais ce n'était pas la première fois que votre fils rencontrait ce Vladimir Dimitri.
Lievitch,
qui a fondé une maison d'édition mythique, parce qu'elle a joué un rôle immense, qui s'appelle l'âge d'homme.
L'âge d'homme, oui.
L'âge d'homme. Leur amitié date des années 60, et quand Dimitri crée sa maison d'édition, votre mari, Oui, mais... le connaît déjà et il y a déjà une relation entre eux.
Alors, il a été, parce qu'il a d'abord été Dimitri, il a participé à Lausanne avec des librairies, des maisons d'édition, il a été diffuseur.
Oui.
Donc, il était devenu notre diffuseur. C'est ainsi qu'on l'a rencontré, mais l'amitié n'était pas créée. Là, je vais vous dire ce qu'il dit lui-même, Vladimir Dmitrievitch, dans le cahier sur Dominique de Roux, le dossier H. Il dit « Dominique de Roux est arrivé à Lausanne un mois après la foire de Francfort. Je me souviens très bien de cela, c'était en 1966. Et il y a fait une conférence sous le titre « Éditer, écrire et lire ». Je pense que le titre de sa conférence était tout un programme qui correspondait parfaitement au personnage. À mes yeux, Dominique de Roux est un écrivain très important, un éditeur qui a donné à la vie éditoriale française une impulsion nouvelle très intéressante et passionnante, et je pense que c'est quelqu'un qui savait lire. Sans savoir lire est une chose très rare, c'est-à-dire pouvoir aller d'emblée à l'essentiel, découvrir quelle est la fibre la plus sensible que cache une œuvre littéraire, découvrir l'écrivain fondamental d'une époque. On était toujours émerveillé de voir avec quelle facilité, avec quelle faculté de discernement, Dominique de Roux abordait les œuvres même quand il les lisait pour la première fois. Je vous donne deux exemples.
Oui, absolument.
La manière dont il a lu et apprécié Gogol et dont il a lu et apprécié Gontcharov. C'est l'auteur de Oblomov, que je lui avais conseillé de lire à un moment. Autant les gens se perdent en discours autour d'une œuvre, glosent sur l'époque, sur les conditions dans lesquelles l'œuvre a été écrite, autant Dominique de Roux allait à l'essentiel.
Alors là, nous avons donc deux êtres qui ont comme point commun très fort la passion de la littérature, le goût de l'aventure, parce qu'en fait, pour eux, l'édition ou l'écriture est une aventure. Ce n'est pas une carrière, ce n'est pas un business, ce n'est pas tout ça. C'est une aventure dans une époque extraordinaire où vous avez des changements inouïs, c'est-à-dire que l'Est disparaît de notre vue à ce moment-là, puisqu'il y a, ce passage à l'est de toute cette Europe centrale,
C'est grâce
dans la tragédie. Et puis, on a plus accès à cette vie intellectuelle où tout le monde venait à Paris, où on allait là-bas, où il y avait une circulation. Et ce monde de l'Est disparaît. Et c'est grâce à lui. Et son travail, Vladimir Dimitri.
Il est arrivé en Suisse, nu comme un ver. Oui. C'était un migrant.
Oui, il a commencé par être ouvrier, ensuite il a été vendeur dans une librairie.
Oui, tout à fait.
Et puis il a fondé sa maison d'édition, et tout ça est une histoire.
Avec sa camionnette et dans des conditions.
Peut-être pour faire un petit portrait dans un article que Bousquet a écrit sur Dimitri, donc ce fondateur de l'âge d'homme, et il le décrit en ces termes. C'est le sel de la terre, mêlé d'un peu de soufre, d'où il sortait des étincelles et même des explosions. Alors, il décrit un personnage à part, une personnalité, on n'en voit qu'une comme ça dans sa vie, tout à fait originale. Il est né en 1934, il est macédonien, valaque, serbe et valaque en même temps.
C'est ça.
Il vient d'un coin de l'Europe centrale où il y a peu d'écrits mais beaucoup de traditions orales. Et ce Dimitri, quand il parle, tout le monde est absolument sidéré parce que les mots ont du sens, parce qu'il a des expressions incroyables et il paraît que ceux qui l'ont rencontré et qui ont passé quelque temps à boire ou à discuter jusqu'à pas d'heure ne peuvent pas. C'est comme s'ils avaient lu un livre entier en l'espace de quelques heures. Alors en plus, bon, c'est ce monde aussi qui est à la frontière de l'invasion ottomane, enfin du monde ottoman, avec tout ce que ça veut dire dans le monde serbe. Son père avait des engagements qui était très compliqué et qui pouvait lui, qui lui a, on lui a valu la prison et qui conseille à son fils de partir au plus vite et d'aller s'installer en Suisse pour s'échapper.
Oui, il est parti en ayant déjà la passion de la littérature.
Et... Oui, mais il était très, très savant déjà. Il a fait des études et il a un grand niveau intellectuel, une culture...
Et individuellement.
Et donc, il y a aussi notre ami Gérard Cognot qui va peut-être nous rejoindre, je ne sais pas, en tout cas, qui devait venir et qui a fait un livre testament avec lui. Je crois qu'ils sont co-auteurs de ce livre qui s'appelle « Béni soit l'exil », propos d'un éditeur engagé. Et donc, dans ce livre, on a cette aventure intellectuelle, en plein fin du XXe siècle, au milieu d'une guerre culturelle que les Français n'ont pas vu passer et qui était extrêmement violente, qui a évidemment concerné le monde entier, mais aussi particulièrement l'Europe.
Mais il a révélé l'univers slave, la littérature slave, il a publié des amisdates, il a publié...
C'est fou. Ça, c'est à partir des années 70-80 qu'il va être l'éditeur de la dissidence. Et donc, les livres arrivaient chez lui par l'opération du Saint-Esprit, par des moyens et des canaux improbables. Et il a commencé à éditer tout ce monde inconnu de nous et qu'il a révélé en France.
Alors là, m'autorise à dire la façon dont il le dit à travers sa rencontre avec Dominique. Je voudrais dire une chose plus personnelle. Nous nous sommes donc rencontrés cette année, 1966, à la foire de Francfort. La maison d'édition L'Âge d'Homme venait d'être créée et lui avait déjà créé les Cahiers de Lerne, les éditions Christian Bourgois venaient d'être fondées. Je n'oublierai jamais la flamme qui habitait Dominique Deroux. Je n'oublierai jamais la générosité avec laquelle il m'a aidé, moi qui venais d'ouvrir une maison d'édition à Lausanne. Nous sommes devenus des amis en quelques minutes. Nous avons échangé l'essentiel de nos opinions dans l'heure qui a suivi et je dois dire qu'il m'a fait un des plus grands cadeaux que j'ai jamais reçu dans ma vie éditoriale puisqu'il m'a donné le manuscrit et la traduction du Pétersbourg de Bielli qui a été le premier livre de ma collection slave. L'âge d'homme, le rôle essentiel que vous savez, c'est cette amitié-là, cet encouragement-là qui, je pense, m'ont permis de continuer dans cette voie. Cette amitié était devenue durable, forte. J'ai édité les livres de Dominique Deroux. Je pense que jamais un homme ne peut oublier un passage de flamme tel que celui qui eut lieu à ce moment-là concernant nos futures activités d'éditeur. C'est émouvant.
C'est ça. Donc, deux personnalités qui ont en commun une passion littéraire, qui se rencontre et qui va vous sauver, Jacqueline, parce que vous vous retrouvez veuve.
Oui, en 77.
Avec le début des cahiers H, enfin des dossiers H.
Oui.
Et rien.
Plus rien.
Et rien.
Avec la revue H Exil et des stocks.
Et rien. Et pas d'argent pour continuer.
Avec une catastrophe. Voilà. Absolue, parce qu'on perdait aussi le lieu et notre diffuseur Bernard Laville lui-même a fait faillite.
Donc tout ça à cause de celui qui a racheté...
Non, Laville c'était son histoire, mais enfin il faisait faillite et il nous soutenait, il nous donnait les lieux rue de Bourgogne, donc ça a été une catastrophe aussi, il a perdu un fils, vraiment.
Et alors, à ce moment-là, se révèle l'amitié de Vladimir.
Et qui était déjà, c'était 77, il s'était connu en 66.
Oui, donc il y avait déjà 10 ans d'amitié.
Ah oui, on était plus qu'il a été le parrain de ma petite fille. Il a été très proche de mon fils Pierre Guillaume, avec qui il a pas travaillé directement, mais qui est devenu éditeur aussi en grande partie à cause de son père et de lui.
Et il avait deux modèles extraordinaires.
Oui.
Alors, Dimitri Jevic vous propose de prendre sous son aile
Les dossiers.
Les dossiers. Alors, comment ça se passe? C'est vous qui allez prendre et qui allez conduire tout ce qui s'est passé
après. Oui, alors j'étais
après.
Déjà, bon, j'ai été évidemment...
Mais vous l'aviez déjà fait
introduit.
Vous étiez seul à le faire à,
oui,
à partir de...
Oui, mais on a donc continué en faisant des cahiers comme importants, comme Junger, comme Daumal, Vialat, Joseph de Maistre, Gustave Thibon, et j'en passe, évidemment.
Oui, si, c'était très important, Gustave Thibon. Si vous ne l'aviez pas fait, que se serait-il passé
aussi,
avec
et
ses
alors
auteurs?
On le faisait parallèlement à Lerne, qui devenait plus universitaire, etc. Et on a fait en commun Daumal. On avait un projet Daumal et eux aussi, donc il s'est fait différemment.
Oui, ça, c'est passionnant. Donc,
ah
il y
oui,
avait
c'était...
deux versions, il y avait deux mondes qui se...
Et au fond, les directeurs se sont entendus.
Oui. Oui, c'est la littérature qui a gagné.
Oui, absolument.
Oui. Alors, donc, vous en faites combien, comme ça, parce que...
On en a fait à peu près 20.
Ils existent encore, les
Alors là, ça a été un peu une catastrophe, parce que les éditions de l'âge d'homme ont été reprises par la fille de Dimitri, mais avec quand même un abandon. Et donc, il y a eu des stocks, parce qu'à l'époque, les éditeurs avaient des stocks, qui se trouvaient un énorme stock qui se trouvait à la frontière, où il est mort d'ailleurs, Jura français, Jura suisse, et qui a un peu perduré, et ça, qui a été géré, et puis après ça donc on les retrouve en... Malheureusement.
Un par un, on les retrouve un par un.
Un par un, en allant voir des vendeurs, des stocks qui ont été rachetés n'importe comment. Mm. C'est effrayant. Donc c'est très, très lourd aussi. Encore un
coup dur.
Un hache qui se coupe, comme dans l'hydro de Lerne. Mais bon.
Ça a été une tragique histoire, toute l'histoire de ces deux éditeurs. Ça a été tragique, hein, puisqu'ils sont, ils sont morts bien avant qu'ils auraient dû mourir.
Dominique plus quand même,
plus, oui.
Parce qu'il avait 41 ans, et Dimitri un peu plus, mais quand même.
Oui.
Quand même.
Enfin, personne ne s'attendait à ça, c'est un accident de voiture pour Dimitri. Et tout ce travail est resté interrompu, parce que personne n'a pris la place.
Ben c'est... Je ne vais pas raconter trop, mais la fille a pris la place, mais elle n'a pas du tout été de la compétence de son père, ni de ses options. Elle, et du point de vue financier, je crois que ça a été aussi... c'était lourd aussi. Hein, du point de vue. Et alors, elle a opté pour... Il y a eu un abandon.
Son père prenait des risques extraordinaires. Il éditait des choses qui n'étaient absolument pas commerciales.
Non, il ne faisait pas forcément des contrats. Il disait, je l'imprime, et puis voilà.
Oui.
Donc, c'était des conditions aberrantes. Mmh. Et comme disait Dominique, je ne marche qu'aux conditions aberrantes. Et tous les deux, ils marchaient à des conditions aberrantes. Mmh. Or, c'est vrai que des conditions aberrantes laissent des conditions de survie difficiles. Mm. Enfin, bon.
Alors, il meurt en 2011, et il y a un vide après. Moi, j'avais un ami qui devait avoir son livre, qui était un Roumain, un sculpteur roumain, qui s'appelle Mircea Milkovic, qui fait une très belle sculpture. Et en plus, il a toute une pensée sur l'art. Ce livre est resté sans éditeur, alors qu'il devait être et devait l'être. Ouais. Et quand on a essayé de se dire, mais chez qui peut-il l'éditer? Qui va s'intéresser? Et on a fait le tour des éditeurs. Il n'y avait pas trop de...
Il y a eu quelques reprises, dont la collection slave, etc. Cogno le dirait mieux que moi. Mais ça a été très partiellement repris.
Et puis, nous avons perdu, le contact avec l'Europe de l'Est pendant toute l'époque, de la guerre froide jusqu'en 91. Le monde s'ouvre, il y a eu quand même combien combien d'années, une quarantaine d'années, où il n'y a eu aucune relation vraiment importante, oui. Sauf celle que pouvait avoir Cognot, qui a vécu oui. dans ces pays-là et qui connaissait personnellement tout le milieu littéraire un peu caché, oui. Qui en a parlé dans ses livres. Oui. Gérard Cognot serait une très grande, nous dirait beaucoup de choses sur cette aventure. Mais n'empêche que pour rattraper le temps perdu, pour voir qui étaient les grands écrivains, qui étaient les grands talents, il faut du temps.
Alors l'âge d'homme, il y avait déjà participé évidemment.
Oui. Et puis ensuite c'est Chantal Delsol qui a été chargée de rencontrer tous ces intellectuels, d'essayer de voir quels étaient les grands talents. Ce qui devrait être traduit pour que nous sachions ce qui s'est passé dans ces pays. Et elle a voyagé dans tous ces pays de l'Est pour essayer de retrouver un peu la trace de ces grands intellectuels et écrivains. Voilà. Et elle le fait encore. Voilà, donc vous voyez, l'histoire a été très, très mouvementée. L'histoire littéraire de l'Europe a été extrêmement mouvementée pendant toute cette époque. Alors, savez-vous d'ailleurs, c'est Frédéric qui m'a dit que le sens de ce que voulait dire Dimitri Jevic par le titre « Âge d'homme », c'était une citation de Malevitch, qui considérait que il y avait la condition animale, et puis ensuite la condition humaine, et que dans la condition humaine il y avait une maturation pour arriver jusqu'à l'âge d'homme. Donc que sa maison d'édition était cet encouragement à faire en sorte qu'on arrive à l'âge d'homme.
Il faut pas oublier que par exemple Dimitri a laissé le Vassili Grossman, qu'il avait récupéré les amis date, au KGB, et il a édité ce livre magnifique qui maintenant a pris, a pris des proportions de diffusion incroyables. Vie et destin, c'est une clé de cette histoire de la Russie et de... C'est terrible. Enfin, maintenant, or, il l'a édité avant sa mort, donc ça a fait son chemin quand même. Hein.
Alors, il nous a fait découvrir beaucoup de grands talents qu'on n'aurait jamais découvert s'il n'était pas là.
Grossman, ça était évident, et puis bien d'autres. Ça, il faudrait que...
Alors ça a été toute une partie de votre vie, donc entre la mort de votre mari en 1977 et 2011, la mort de... Parce que ça aussi, ça a été du jour au lendemain.
11 ans, je crois,
Du jour au lendemain, plus rien.
Oui, oui.
C'est quand même une vie mouvementée. Et depuis 2011, Jacqueline, racontez-nous quel a été votre parcours. Parce que vous êtes celle qui est toujours là, qui continue, qui ne
Mais alors donc,
pas.
Effectivement, j'ai essayé dans cette catastrophe générale. D'abord, j'avais des stocks. Donc, il y avait le stock des écrivains à la guerre d'Espagne dans nos caves. Il y avait le début donc, du John Donne magnifique cahier. Et tout ça a commencé à être diffusé par l'âge d'homme. Et puis, il y avait aussi la revue Exil H, que Dominique avait fait dans des conditions invraisemblables, aberrantes. Et là, donc, on a quand même conservé le stock, qui était... Et puis moi, j'ai quitté l'édition telle qu'on la vivait, qui était très personnelle. Et je suis allé participer à la création culturelle des ateliers de l'ADAC à la mairie de Paris, qui a financé en partie l'élaboration. Ensuite, on était indépendants. Et ça a été assez extraordinaire parce que ça s'est fait sous l'impulsion de la mairie de Chirac. Et c'est Marcel Landowski qui était lui-même un créateur.
Absolument. Et un fils d'un grand sculpteur.
Non, et qui a fait venir un personnage étonnant avec qui il avait travaillé pour la réforme musicale en Midi-Pyrénées, qui a été considérable pour la France et pour les petits Français musicalement, et qui s'appelait Francis Balagna. C'était un personnage tout à fait hors norme et qui était chef d'orchestre lyrique. Et qui a accès...
Comme Landowski, je crois. Landowski.
Oui, oui, ils sont connus à travers la musique. Et qui l'a fait venir en voyant qu'il avait la carrure d'envisager très librement une grande aventure culturelle pour Paris, c'est-à-dire des ateliers qui ont couvert 180 disciplines différentes, allées de la laque orientale à la dorure sur bois, etc. Ouais. Ça n'a pas du tout été, ça a été extraordinairement révélateur, ouais. Avec des artisans d'art ou des artistes professionnels. Mmh. Et donc, j'ai fait partie de cette aventure également. Mmh. Et avec lequel, d'ailleurs, j'ai pu poursuivre un peu des émissions sur France Culture, où je faisais vivre, évidemment, les Cahiers de l'Erne avec Gombrowicz, avec Pierre-Jean Jouve, etc.
Ouais, voilà, il y avait des émissions assez extraordinaires sur France Culture à l'époque.
Ah oui, oui.
Et ça s'écoutait beaucoup dans les ateliers, parce que quand on travaille avec les mains, on peut écouter et on a besoin d'écouter. Et moi, je sais que j'ai tellement écouté France Culture en travaillant à l'atelier.
Et ça a rejoint là aussi un monde en France, c'était incroyable. Les auditeurs,
la richesse,
le lien qui existait entre France Culture, qui était une vraie culture, et les éditeurs qui étaient. Et les éditeurs, non, les auteurs, pas, ceux qui écoutaient, comment appelle-t-on ça ? Les auditeurs. Oui. Et c'était étonnant. C'était une université libre aussi.
Ça a vraiment été un moment où il y avait encore cette diversité, cette richesse. Et on a vu tomber la chape de plomb progressivement au cours des années 80. Et je dirais la chape de plomb a été terrible pendant les années 90. Et peu à peu, disons que le numérique, qui était un nouveau média qui pouvait échapper, disons, à la pesanteur de l'État et à la fermeture idéologique, si on peut dire, qui ne s'installe qu'à la fin des années 2000, entre, disons, 2005 et 2010.
Il y a un lien très fort.
Il y a un lien très fort, effectivement. Et donc, vous avez vécu toute cette partie, et vous avez même vécu le fait de ne plus être dans ces ateliers de la ville de Paris, parce que quand la gauche est venue au pouvoir à la ville de Paris, cette conception des ateliers n'a pas...
Si. Non, ça, on ne pourrait pas dire ça. Ils ont repris parce qu'ils considéraient que ça avait pris un poids énorme, mais ils ne les ont plus appelés Atelier ADAC, immédiatement, c'est devenu les ateliers Paris Atelier. Paris Atelier.
Donc, pour tout ce qui était artisanal, ça a continué, et ça continue encore, et c'est très fort. Mais alors, dès qu'il s'est agi des ateliers de sculpture, de peinture, ça a changé, c'est-à-dire qu'on a préféré faire en sorte que ça ne soit pas des ateliers de transmission de technique et de savoir-faire. Ouais. Parce que pendant quelques années, les étudiants des Beaux-Arts qui n'avaient plus de cours de perspective ou d'anatomie ou de je ne sais pas quoi, des choses précises, si vous voulez, de la connaissance, allaient dans les ateliers de la ville de Paris. Voilà. Donc, cet aspect-là n'a pas beaucoup plu, cette transmission des savoirs. Et il y a plutôt des ateliers de... Comment dire, ou de bien-être, où les personnes qui ont envie de s'occuper vont... Je parle uniquement de la côté créatif, pas du tout du côté des savoir-faire.
Oui, ça a perdu, et c'est-à-dire que les gens qui étaient à la tête de ces ateliers étaient soit des artistes, soit des artisans d'art. Et ça, ça s'est modifié. C'est pas tout à fait...
Mais enfin, c'était quand même une tradition qui date de la Pompadour. Mais alors, les ateliers de la ville de... Enfin, les enseignements de la ville de Paris.
Alors ça, ça existe toujours. Hein. Donc, il ne faut pas parler de... Non, il faut faire attention.
Bien sûr.
Paris Atelier, ça existait en tant que tel. Donc, je ne parlerai pas... Parce que je ne dirai peut-être pas... peut-être le savez-vous mieux que moi, mais les ateliers de... qui existent toujours, qui ont toujours existé, je crois quand même que je ne sais pas s'ils transmettent un savoir très... ou si ça s'est modifié, ça je ne sais pas.
Enfin, ça a été... Et c'est encore, donc, pour tout ce qui est transmission des savoirs, une grande richesse de Paris.
Oui.
Et maintenant, Jacqueline, vous êtes, disons, la personne qui... Et la personne qui a tout cet héritage, toute cette mémoire, et qui connaissait encore tous ceux qui sont là encore.
Ben oui, mais ça disparaît beaucoup.
Et vous continuez beaucoup à transmettre.
Oui.
Mais aussi à participer à tous les nouveaux courants, tous les cercles littéraires qui se créent tous les jours. Et vous voyez, en fait, comment ça bouillonne, il y a une effervescence et une liberté, parce que tout le monde s'en fout de savoir quelle est la pensée officielle ou l'art officiel ou tout ça, ou la légitimité ou pas, on s'en fiche. Il y a une envie de créer, d'écrire, mais aussi pas seul, solitaire dans un coin, mais le partager avec les autres.
Et puis, il y a aussi l'arrivée de gens plus jeunes qui sont intéressés...
Tout à fait, à cette histoire.
À cette histoire, absolument.
Comme Maximilien Frisch.
Oui, par exemple, comme Olivier François. On a créé cette petite, toute petite association qui s'appelle Exil H, et où justement, ce n'est pas un fourre-tout, mais ça nous permet de faire des petites conférences, des projections, des liens... avec différentes générations.
Oui, c'est ça. Voilà. La transmission entre générations, et ça se passe dans les premiers étages des cafés parisiens, ou dans les lieux qui sont encore, abordables.
Et insolites.
Et insolites. Donc, Paris est très vivant en ce moment de ça, et vous y êtes. On vous y rencontre souvent et tout le monde peut parler avec vous longue histoire.
Je me rends compte qu'il y a une nécessité d'être là et qu'on est là, parce que beaucoup disparaissent aussi.
Oui.
Et de parler de ceux qui ont disparu et qu'on ne salue pas, comme d'ailleurs Dimitri, comme d'autres. Il y a quelque chose à voir aussi en tant que salut de ceux qui ont été des témoins et des actifs.
Et Jacqueline, je crois que vous avez fait beaucoup d'autres choses. Vous avez écrit des livres pour vos petits-enfants.
Oui, mais ça c'était une... Parce que j'ai toujours écrit pour enfants. Bah, ma sœur avait une école... elle a été directrice d'une école des jésuites qui était montessorienne. Et à l'époque, j'ai fait des petits textes pour les enfants, pour le théâtre, etc. Et puis, j'ai rencontré le groupe de Bayard Presse, grâce à une de mes cousines, d'ailleurs, Beccaria. Ils ont dirigé les premiers... Ils ont beaucoup... C'était passionnant, d'ailleurs, parce qu'ils ont fait le livre d'enfants contemporains en faisant venir des femmes qui étaient très... qui avait analysé l'écrit, l'apprentissage de la lecture, etc. Et ils ont vraiment fait un travail remarquable pour la littérature enfantine, dont j'aime lire Okapi, Les Belles Histoires, etc., et qui ont été très importants là, pour la littérature enfantine. Alors moi, j'ai participé à Pomme d'Api, d'abord, c'était pour les tout-petits. Et puis ensuite, j'ai fait le premier J'aime lire, qui s'appelait Le Taxi Bleu. Et puis voilà, donc j'ai fait des J'aime lire. Mais c'était l'époque où j'avais, mon fils, j'avais eu beaucoup d'enfants autour de moi.
À cause de votre fils qui était petit.
Et de mes neveux, etc. Et donc,
merveilleux,
j'ai poursuivi.
Merveilleux moment.
Tout à fait. Et puis ensuite, alors là, j'ai écrit un peu pour moi, mais très, plus modestement, mais j'ai publié dans une revue qui s'appelait Midi, et qui était dirigée par... et je vais retrouver son nom.
Ne vous inquiétez pas.
Oh, zut.
Peu importe.
Bon, c'est important. Et elle a fait un travail très aussi relié, comme tout d'un coup je me rends compte, elle a mis en valeur l'action de femmes qui avaient été qui avaient tenu comment appelle-t-on ça ? J'ai des trous là. Excusez-moi. Enfin, qui avait participé sans être vraiment révélé au public. Et ça aussi, c'était important, aussi bien de textes poétiques que quand elles ont dirigé des revues. Elle a mis en valeur des témoins oubliés, ça c'est sûr. Et sa revue s'appelait Midi. Elle était ramenée là.
Et puis, ma chère Jacqueline, vous devez avoir bien du travail avec toutes les correspondances, les boîtes, les
ben
tiroirs
là,
pleins de papiers et de
submergés,
mais et qui racontent toute cette histoire par la correspondance.
C'est la fin des correspondances.
Oui, c'est vrai. Avec Internet, c'est la fin des correspondances.
Donc, c'est pour ça qu'heureusement, je vous l'ai dit, je parle.
Oui,
on demande de
c'est
témoigner.
Ça. Et maintenant, évidemment, il y a l'image, il y a l'enregistrement, il y a la personne qui parle, puisqu'on voit les vidéos et tout ça, on voit tout à fait les choses.
Alors, c'est vrai que Dominique avait commencé, parce qu'il avait fait avec Jean-José Marchand, je m'aperçois aussi, les archives du XXe siècle, qu'il n'y avait pas encore Internet et tout ça. Et donc, il a enregistré... Il y a de même que la radio a des émissions fabuleuses.
Ah oui, absolument, on est gâtés quand même.
Oui, oui.
Ma chère Jacqueline, merci de nous dire tout ça, et puis nous continuons cette exploration des générations, la nôtre, mais aussi celle qui vient et qui est tout aussi passionnante et aventureuse.
C'est vrai.
Nous allons maintenant parler avec celle qui tous les ans nous offre, Brigitte Perrier, celle qui tous les ans nous offre une pièce de Molière en général, n'est-ce pas ?
Bonjour Aude.
Et qui la met en scène, et ça se passe à Montmartre, au théâtre Montmartre-Galabru, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Il faut monter là-haut. La pente est rude.
Oui, c'est près de la rue Le Pic.
Voilà.
Il faut y arriver. Il faut descendre au métro Blanche.
Et monter du boulevard.
Et monter jusqu'au 55 de la rue Le Pic, où là, on a une petite rue qui s'appelle la rue de l'Armée d'Orient. C'est tout de suite à côté de la rue Le Pic. Et on a une jolie petite salle qui est le théâtre de Montmartre-Galabru, qui fait une petite centaine de places avec des beaux fauteuils rouges.
Exactement. Et on vous attend tous les ans. L'année dernière, c'était...
L'Avare.
Et cette année, c'est le Bourgeois Gentilhomme.
Cette année, c'est le Bourgeois Gentilhomme. On s'est lancé dans une comédie-ballet cette année. C'est un peu ambitieux. Alors, nos comédiens ne sont pas danseurs à proprement parler. Donc, je me suis adjointe l'aide d'une chorégraphe, Sylvie Dreamer, qui était ancienne ballerine à l'Opéra de Paris et qui a très gentiment proposé de m'aider pour les quelques petites chorégraphies bien modestes que nous avons, mais que j'aurais été incapable de faire. Donc, c'est une comédie très, très joyeuse que nous vous présentons cette année, avec un peu de danse, du chant, j'ai un violoniste, une soprano, et des batailles à l'épée, puisque M. Jourdain prend des cours d'escrime, donc on a mis tout cela en scène. Alors c'est un peu, il n'est pas très à l'aise ce M. Jourdain.
Oui, hein, un peu de ventre.
Ça rend la scène d'autant plus drôle, oui. Et bien également, on est dépaysé par des défilés turcs. Molière a écrit cette pièce en 1670 et on lui avait demandé de mettre
quelques turqueries.
Voilà, quelques turcs. Alors, il y en a, j'ai quand même dû faire, puisque c'est moi qui fais les costumes, en plus de la mise en scène, une dizaine de costumes turcs, puisque la moitié de la scène est habillée, est habitée par ces personnages un peu virevoltants. Nous sommes 14 en scène.
Bravo. Et vous êtes souvent comédienne. Et vous êtes souvent.
Alors, oui, tout à fait.
Cette fois-ci, vous êtes qui joue. Vous êtes qui dans Le Bourgeois Gentilhomme?
Je suis Madame Jourdain, qui rouspète tout le temps, qui proteste avec véhémence contre son mari qui dépense l'argent du ménage et veut batifoler avec une marquise. Donc elle n'est pas du tout d'accord, Madame Jourdain, et le fait savoir haut et fort. Donc c'est amusant, c'est un jeu de dupes perpétuel. Monsieur Jourdain ne récupérera aucune clairvoyance à la fin, il est dupé jusqu'à la fin de la scène, mais ça se termine bien.
Oui, c'est ça qui est bien avec Molière, c'est
oui,
que c'est
oui,
une,
oui,
c'est une comédie.
Celle-ci, on s'amuse beaucoup, je vous dis 14 en scène et 30 comédiens qui tournent sur 14 dates.
Oui, alors c'est les vacances, donc c'est le moment d'y aller.
C'est le moment d'y aller. Oui, d'ailleurs, vendredi prochain, samedi prochain, nous avons même le fils de Michel Galabru qui joue avec nous, ainsi que la semaine d'après, Jean Galabru, qui double Philippe Legat, qui est professeur chez Jean-Laurent Cochet, dans le rôle du maître de philosophie. Donc, ils ont chacun 7 interventions et jouent à tour de rôle.
Oui, alors tout le monde l'aura compris, vous êtes une des rares occasions dans Paris pour emmener les enfants voir la comédie de Molière comme elle se jouait un peu du temps de Molière, c'est-à-dire avec les costumes, avec l'esprit. Et vous n'avez pas une interprétation woke ni marxiste-léniniste
ou totalement classique, fidèle à l'auteur.
Donc vous êtes fidèle à l'auteur.
Et on essaye de s'amuser avec le public, si vous voulez. Oui.
Et comme c'est un petit moment... théâtre, on a véritablement les comédiens sont presque assis sur vos genoux quand on va là-bas.
Oh ben, ils ne sont pas très très loin, oui, on est quand même sur une scène surélevée, mais je vous dis, il y a une centaine de places dans le théâtre.
Non, c'est toujours...
Mais il faut grimper, mais les enfants peuvent venir, même très jeunes. Moi, j'ai mon petit-fils qui vient depuis l'âge de 5 ans assister aux pièces de Molière, et celle-ci en particulier parce que, il y a moins de grandes tirades que dans les autres. Ce sont essentiellement des dialogues très vifs, très incisifs, beaucoup de chamaillerie, de réconciliation. Enfin, je vous dis, c'est très joyeux et virevoltant.
Alors, vous partez un peu en tournée après, non ? Avec chaque année vous...
Nous jouons au château de Bourgon dans le dernier week-end de juillet, oui. Et ma soprano en profite pour donner un concert lyrique dans la chapelle du château, en dehors du théâtre. Elle donne un petit concert avec des Ave Maria divers, puisqu'il y a plusieurs interprétations d'Ave Maria. Elle a une palette très large. Et là, je me suis servi de son talent, bien sûr, pour interpréter un air de mélodie qui doit ravir les oreilles du bourgeois.
Donc, en fait, l'année dernière, c'était plus sérieux, c'est vrai.
Plus sérieux. Avec l'avare, c'était plus sérieux. Avant, nous avons donné le misanthrope. On a
c'était encore
aimé.
Plus sérieux.
Et encore plus. Les femmes savantes et le malade imaginaire.
Ça, c'était rigolo.
Oui, oui, oui. Alors, on essaye d'alterner le sérieux et celui qui l'est moins.
Et alors, l'année prochaine
c'est plus distrayant.
Et l'année prochaine
Je ne sais pas encore. Je vais peut-être prendre un petit peu de repos.
Vous dites ça chaque année, je ne vous y crois pas du
je
tout.
Je dis ça chaque année et mes comédiens me disent alors, comment, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? Ils
Bien
me
sûr.
poussent.
Et surtout quand on imagine qu'il faut créer 40 costumes, enfin c'est quand même la folie.
J'en ai créé au moins une trentaine, oui, parce que je me sers parfois de ceux d'autres pièces qui peuvent être réutilisées quand c'est possible. Oui, là, j'ai dû en faire beaucoup avec des chapeaux et des choses un peu tarabiscotées. Les costumes turcs, notamment, sont hautement fantaisistes, avec des couleurs chatoyantes.
Et vous avez un public fidèle aussi qui vient tous les ans.
Oui,
et puis
un public qui revient régulièrement, oui, et puis d'autres qui découvrent.
Oui, absolument, parce que c'est quand même pas évident du tout d'avoir ces pièces de théâtre. Oui, parce qu'on a du mal à se faire connaître, parce que vous ne faites pas.
Je ne suis pas subventionnée, je fonctionne avec mes propres deniers en tant que retraité de l'éducation nationale et des comédiens qui viennent, soit de chez Michel Galabru, soit de chez Jean-Laurent Cochet.
C'est ça, il faut y croire, parce que n'est subventionné que si vous faites de la déconstruction dans le domaine du théâtre.
On subventionne beaucoup plus volontiers les gens qui déconstruisent. Oui.
Si vous voulez que vos petits-enfants voient ce qui pouvait se jouer du temps de Louis XIV, c'est une occasion rare de venir chez vous et... Et allez-y vite, parce que les places sont pas chères, mais très chères.
Nous jouons jusqu'au 16 mai. Alors, c'est le samedi à une heure qui est très pratique. C'est à 7h moins le quart, 18h45. Et ça se termine vers 20h15, 20h30. Si on démarre avec un peu de retard, ça se termine à 20h30. Ce qui offre un grand nombre de possibilités, puisqu'il y a énormément de petits cafés, de restaurants autour de l'endroit où nous jouons.
Donc
c'est un endroit très sympathique de Montmartre.
Oui. Jacqueline Deroux me pose une question.
Comment s'appelle le théâtre ?
Ah oui, c'est le théâtre.
Le théâtre Montmartre Galabru.
D'accord.
C'est un théâtre que Michel Galabru a offert à sa fille Emmanuelle. Et là, je vous dis, ironie du sort, nous avons Jean Galabru, qui est vraiment un portrait typique de son père. Il me rappelle beaucoup son père. Et qui a la gentillesse de venir jouer avec nous de temps à autre. Il sera là ce samedi.
Bon, alors on réserve tout ça. Enfin, on trouve ça, tout est sur Internet. On trouve facilement, c'est ça
Internet,
qui est bien.
Donc je vous invite à passer plutôt par Billets Réduc ou par le site du théâtre lui-même, parce qu'il y a quelques dysfonctionnements sur la FNAC et Tic et Tac.
Ah bon, donc sachez-le.
Oui, on a du mal à nous trouver parfois, alors que sur le Billets Réduc, il n'y a aucune difficulté.
Sachez-le et réservez à l'avance, parce que quand même, sans place, c'est vite occupé.
C'est vite occupé, là, oui, c'est exact. Oui, on a été complet à plusieurs reprises. Nous avons joué tout le mois de février, et effectivement... nous avons eu plusieurs séances complètes. Et c'était assez rempli autrement.
Merci mille fois, Michel.
Merci à vous,
Michel, pardon. Ça va très bien. Brigitte.
De m'inviter ainsi sur vos ondes. Et au plaisir de vous revoir.
À tout bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Nous allons avoir maintenant, évidemment, notre chronique de Christine Sourgens qui va vous parler des derniers éléments de l'actualité. Il se passe énormément de choses en ce moment dans le domaine culturel mais qui sont beaucoup passées sous silence parce que c'est un monde assez secret finalement. Pour être informé dans ce domaine, il faut vraiment chercher. Et Christine nous fait ce merveilleux travail tous les mois de chercher l'actualité, de l'analyser, de donner tous les éléments de façon à pouvoir se faire un jugement soi-même et nous enchanter aussi avec son sens de l'humour malgré le sérieux de ses informations. Chère Christine, vous êtes là.
Oui.
Tout le monde attend votre chronique avec impatience.
Oui, alors Aude, je voulais d'abord terminer par ce qu'on avait commencé de faire au fil des mois précédents, c'est-à-dire de parler de la beauté et de la géographie de la beauté.
Bien sûr, nous sommes partis vers une longue aventure qui se précise de mois en mois, et donc il y a un nouveau...
Alors, pas encore. Non, rappelez-vous, on avait parlé, je résume les épisodes précédents, il y avait d'abord eu Anatomie de la beauté, qui était un livre, le premier des cinq que je vais consacrer à la beauté. Donc ce sont des petits livres, c'est 180 pages, c'est pas des très gros tomes.
On peut emmener ça dans le métro et dans sa poche.
Voilà, on emporte ça avec soi facilement. Puis à petit prix aussi également, donc c'est... Voilà.
Parce qu'on ne lit plus que dans le métro ou en attendant le train.
Ça cherchait à redonner de la consistance à la notion de beauté qui a été très déconstruite, surtout dans les arts plastiques. En particulier avec l'existence de constats aperçus qu'il y avait des constantes de beauté qui redonnaient de la cohérence mais sans rigidité. Et le second livre, Géographie de la beauté, c'était de sortir du piège d'une échelle implicite qu'on a tous plus ou moins dans la tête, où le beau se confond avec le joli qui lui serait inférieur car charmant et décoratif, le beau étant dans le même temps écrasé par le sublime qui lui surplomberait la beauté. Donc pour sortir le beau de ce piège entre joli et sublime, il suffit de déployer une géographie, c'est-à-dire qui montre l'étendue du beau avec 10 terroirs principaux. On avait vu les 5 premiers, et on était donc arrivé au 6e. Je crois qu'après, on va laisser les gens aller voir par eux-mêmes dans le livre les 3 derniers, les 4 derniers plutôt. Donc le dernier, c'est le primordial. Alors le primordial, c'est un registre artistique qui voisine avec l'étrange, mais c'est une altérité différente. Ce n'est pas non plus le sublime, même si le primordial peut inquiéter, voire impressionner. Le primordial, il fait corps en nous via quelque chose de très ancien, d'archaïque, d'immémorial, de tutélaire. Il rejoint la notion latine de lumineux qui avait été étudiée par Jung et d'autres. C'est la rencontre de forces supérieures, archétypales. Donc le primordial ne cherche pas à nous écraser, comme le sublime outré. Il engage un dialogue, mais en position de force plutôt. Et il engendre, je cite là David Tassé, qui est un psychologue qui a beaucoup étudié le sujet, il engendre un sentiment d'élévation, d'excitation, d'aventure, de magie, de contact émerveillé avec le tréfonds de l'être. Donc vous voyez que nous sommes loin de la passivité que nous fait subir le subjugant sublime.
Oui, nous sommes dans une forme de sacré.
Oui, tout à fait. Et en art, ça va donner des œuvres collectives, qui sont souvent anonymes, qui sont tournés vers le monde des esprits, des ancêtres, du sacré. On peut penser par exemple aux Moai de l'île de Pâques, qui sont très angulaires, mais vous avez aussi les Vénus de l'île de Malte, qui elles sont beaucoup plus rondes, elles sont néolithiques. Vous avez aussi les peintures paléolithiques, tout l'art animalier, par exemple à Lascaux, on peut voir des juments gravides. Alors, dans ce primordial-là, il y a quelque chose de maternant, qui renvoie à l'image de la grotte, la cavité utérine terrestre. Il y a plusieurs facettes donc dans ce primordial. Alors, est-ce qu'on peut y inclure les artistes rangés dans l'art brut ? A priori, ceux-ci ne sont pas anonymes, ne pratiquent pas un art collectif ni primitif au sens ethnique du terme, mais à la suite d'une rupture sociale, par exemple les marginaux, les vieillards, ou une rupture psychique, les malades mentaux, les illuminés, eh bien, les créateurs de l'art brut se retrouvent extérieurs à la culture dominante. Et beaucoup sont autodidactes et beaucoup aussi vont relever de l'art médiumnique, c'est-à-dire qu'ils se considèrent comme des canaux à travers lesquels s'expriment des forces ou des esprits. Et là, évidemment, le primordial fait retour. Je pense par exemple à Séraphine de Senlis, qui est une servante inculte que Jean Cassou a qualifiée de dernière des vieilles fées de notre terroir, et on sent le primordial poindre. Et Séraphine peint des arbres de vie qui sont flamboyants, qui sont animés de forces telluriques et terrestres, une sorte de buissonnement cosmique dont les couleurs rappellent les vitraux de la cathédrale gothique de Senlis, puisqu'elle vit à Senlis. Et c'est une mystique sauvage, elle développera plus tard un délire sur le thème de la Vierge enceinte, qui est symbolisé depuis longtemps dans l'art par ce qui brûle sans être consumé, c'est-à-dire le buisson ardent. Donc Séraphine, elle peint des buissons ardents, mais elle peint sans programme iconographique qui serait concerté avec des clercs, pas du tout. Elle œuvre d'instinct, et ses impulsions viennent des profondeurs de la psyché, et l'art brut montrent que le geste créateur des arts de l'œil et de la main, eh bien, il appartient au primordial de l'humain. Alors l'art brut s'exprime par toutes sortes de matériaux, il peut produire des dessins, des broderies, du modelage, des assemblages, beaucoup plus que des tableaux d'ailleurs. La beauté peut s'y nicher ou pas, parce qu'il n'est pas dit que le primordial veuille toujours être beau. Ce qu'il veut d'abord, c'est apparaître, être là, comparaître devant l'humain ou que l'humain comparaisse devant lui. Bon. Alors il ne faut pas le limiter aux époques archaïques ou aux artistes marginaux. Par exemple, Malraux a restitué les réactions de Picasso dans les années 30 devant les masques africains et Picasso raconte qu'il est passionné à ce moment-là, au début du XXe siècle, par les fétiches, les armes, les outils. Si nous donnons forme aux esprits, nous devenons indépendants. Et il ajoute, les demoiselles d'Avignon ont dû arriver ce jour-là, mais pas du tout à cause des formes, parce que c'était ma première toile d'exorcisme. Hein, c'est ce que fait dire Malraux à Picasso. Donc les demoiselles d'Avignon qui passent pour un parangon de modernité, c'est le coup d'envoi du cubisme, alors qu'elles relèvent aussi d'un primordial qui regarde vers l'Afrique ou vers la statuaire ibérique. Mais dans les deux cas, il y a du primordial, bien sûr. Et donc c'est une tendance de fond de l'art moderne que de se ressourcer à des formes archaïques au point qu'on a pu dire que les sauvages, entre guillemets, passent de leur statut habituel d'étranger absolu à celui d'ancêtre potentiel. Et la tentation des origines, elle va toucher aussi l'art abstrait, par exemple les texturologies de Dubuffet qui mélangent la peinture avec d'autres matériaux pour laisser apparaître, dit-il, tous les hasards propres aux matériaux, eh bien ça rapproche l'acte de création d'une forme de divination finalement. Mais en musique, vous avez aussi dans le Sacre du printemps de Stravinsky des rituels anciens, archaïques qui se font entendre. En sculpture, vous avez Harpe et Moore. En architecture, je vous invite à aller voir sur Internet la très sainte Trinité à Vienne, en Autriche, d'un sculpteur qui s'appelle Fritz Voturba. Et c'est une sorte de Stonehenge en béton. En lévitation, c'est quand même un truc assez extraordinaire qui a été terminé en 1976. Vous voyez, c'est quand même pas du néolithique. Bon, le land art également, qui œuvre en pleine nature et qui des fois réveille la tellurique beauté d'un site, l'art pauvre qui sollicite des sens réputés primaires comme l'odorat et le toucher. Enfin, ce rapport au primordial est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Et puis évidemment, l'archaïque, le primitif vont tatouer les mégalopoles américaines avec Jean-Michel Bastiat qui utilise le graffiti. Le graffiti, c'est un marquage de territoire, c'est très primordial comme geste. Et encore une fois, le primordial ne veut pas d'abord être beau, mais il veut être là. Et souvent, il y a de l'agressivité qui se conjugue avec le primordial, enfin dans le cas de Basquiat. Et là, il y a un autre registre qui apparaît, qui est le pulsionnel. Mais ça, c'est un autre sujet. Et on vous renvoie donc au livre « Géographie de la beauté » pour la suite.
On est impatient. On est impatient.
Voilà. Mais alors, Aude, avant d'aller encore plus loin, je vais faire un petit détour quand même par l'actualité. On va plutôt aller voir un art qui, lui, est très sophistiqué, qui n'est pas du tout dans le primordial. C'est l'art de truquer les chiffres. Alors, vous savez que Mark Twain disait « Il y a trois sortes de mensonges. Il y a les mensonges, il y a les gros mensonges et il y a les statistiques. » Eh bien, je me demande s'il ne faudrait pas ajouter les sondages. Parce que si je prends la une du numéro de février de Beaux-Arts Magazine qui titre « Sur l'amour fou des Français pour l'art », chiffre à l'appui, hein, 64% aiment l'art contemporain. Vous vous rendez compte, Aude, 64%. La revue, donc, à la page 54, elle est si extraordinaire, d'ailleurs, que je l'ai scannée, elle est sur mon blog sourgins.fr, à la rubrique grain de sel, et vous cliquez sur la dernière chronique, donc vous pouvez retrouver toutes ces chroniques sur mon blog sourgins.fr, sourgins.fr. Donc, cette page 54, elle en rajoute une couche, elle dit « L'art contemporain devance les impressionnistes ». Et là, on se dit quoi ? Monet et Renoir, battus par Kuntz et Buren, les pommes de Cézanne détrônées par la banane de Catalane. Enfin, bon. Et alors, attendez, c'est pas fini. Le détail du sondage éberlue encore plus, parce que à la question « Par quelle grande époque artistique êtes-vous intéressé ?», eh bien, figurez-vous que l'art contemporain n'obtient que 25% de faveur. Alors, on se dit, mais où sont passés les 64% annoncés ? Alors, certes, l'art moderne, c'est que les impressionnistes font partie de l'art moderne, réalise dans ce sondage, avec 16%, un score inférieur à l'art contemporain, mais au prix d'un redécoupage temporel qui le situe de 1900 à 1960, alors que la plupart des historiens le font débuter à Manet ou en 1874, qui est la date de la première exposition impressionniste. Et puis ce courant va dominer la fin du 19e siècle. Donc avec ce redécoupage chronologique qui repousse l'art moderne à 1900, faut-il s'étonner que cet art moderne fasse moins bien que l'art ancien qui est choisi à 23%? Parce que quand même l'art ancien, ça va de 1500 à 1900, donc 4 siècles qui sont mis en balance avec les 60 maigres années d'un art moderne qui est réduit à portions congrues. Mais il y a mieux, parce qu'on hallucine de découvrir ensuite que, tenez-vous bien, 62% des sondés affirme ne rien comprendre à l'art contemporain. Or, 64% déclarent l'aimer. Hein, bon, là on se dit, mais soit le sondage démontre que les Français sont idiots, parce que ça veut quand même dire qu'il y a que simplement 2% de gens cohérents. Et là on se dit, mais comment Beaux-Arts va commenter cet écart qui est quand même un peu fort de café? Alors là, c'est merveilleux, c'est fabuleux, fallait y penser. Commentaire de Beaux-Arts, l'amour est parfois aveugle. Hein, ça, c'est de l'analyse. Hein. Et en plus, c'est une revue payante. Hein. Vous avez mon blog, moi, il est gratuit.
Payant et en plus extrêmement subventionné. Subventionné, voilà.
Donc, vous avez compris que tout est bon pour ne pas avouer l'ambiguïté du terme art contemporain, qui est fort utile pour ces tours de passe-passe, qui sert à mettre l'art dit contemporain à la une et en gloire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je crois qu'on peut reconstituer la chose suivante. Dans le sondage, il y a eu une première question, on a dit aux gens « Aimez-vous l'art contemporain ?» Et cette question a dû être interprétée par les sondés au sens large d'art actuel ou art vivant, donc englobant à la fois Sophie Calle et les photos, donc le Jaco. Hein. Donc alors bien sûr, 64% aiment l'art de leur temps s'il comprend les photos de Tonton et les aquarelles de Colette. Mais quand le sondeur veut préciser et qu'une autre question met art contemporain en regard avec art moderne, alors là, le commun des mortels commence à flairer que ce mot d'art contemporain est cette fois le label artistique qui exalte Kuntz et jamais Colette. Bref, qu'il s'agit de cet art conceptualisant, volontiers financier, que le commun des mortels n'aime ni ne comprend. C'est pourquoi, d'ailleurs, moi je pense qu'il vaut mieux parler d'assez pour sortir de la confusion quand il s'agit de cet art volontiers officiel, conceptualisant ou financier. Alors, le reste du sondage de la revue Beaux-Arts offre des données intéressantes, mais évidemment, après un tel montage, on se dit, est-ce que c'est crédible? C'est le problème, c'est qu'après, vous perdez votre crédibilité. Par exemple, il y a un chiffre intéressant, parce que malgré un battage intense depuis 10 ans, seul un tiers des sondés apprécient les expositions d'art numérique et immersif. Vous voyez, on s'attendrait à un score beaucoup plus important. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus grave, qui est la petite musique de la fin de l'inaliénabilité des œuvres d'art à la page 61. Je cite la question. « À titre exceptionnel, seriez-vous favorable ou opposé à ce que l'État autorise la vente de quelques œuvres si l'intégralité des recettes finançait la rénovation des musées ?» Alors ça, Aude, c'est très, très grave et il faut que le public comprenne qu'il y a là un triple mensonge. Alors, premièrement, l'expérience montre que l'État, parce que ça commence par « à titre exceptionnel hein, », donc l'expérience montre que l'État pérennise régulièrement ce qu'il fait accepter à titre exceptionnel. Il n'y a qu'à regarder certains impôts, hein, je n'ai pas besoin de développer. D'autre part, il est impossible, j'ai bien dit impossible, que l'intégralité d'une recette soit affectée à une cause précise, car Bercy pratique le pot commun. Donc la question du sondage est pipée pour insinuer la possibilité de vendre dans l'esprit public. Puis on vous dit vendre quelques œuvres, mais lesquelles? Qui va choisir? Comment? En fait, on demande aux citoyens un chèque en blanc en l'apitoyant sur l'état des musées. Or, si les musées sont dans cet état, c'est moins par manque d'argent que via la gabegie récurrente de ces élites, de leurs élites plutôt. Alors, quelque se traduira par la braderie de pans entiers de notre patrimoine. D'où les pressions pour lever le verrou de l'inaliénabilité, qu'on nous présente à chaque fois comme une vieille lune, une exception française qu'il faudrait corriger, etc. Parce que si on lève ce verrou, on va combler notre dette. Mais comme notre dette, c'est le tonneau des Danaïdes, ça ne comblera pas grand-chose, sauf au passage peut-être les poches des copains. Mais en tout cas, soyez sûr d'une chose, c'est que la spoliation collective du peuple français est en vue. Et d'ailleurs, je conseille d'ores et déjà aux donateurs de faire préciser lorsqu'ils donnent à l'État, à condition de ne pas revendre et que sinon ça revienne à la famille de fils. Ça découragera
peut-être... Quelle bonne idée.
Ah oui, non, ça, il faut que les gens comprennent que c'est quelque chose qu'ils sont en train de mijoter. Bon. Et en plus, on va vous faire le coup de « mais toutes les bêtises d'art contemporain, d'Assé qu'on a acheté, on va revendre tout ça, on va se faire du fric parce que c'est de l'art financier ». Ça ne marchera jamais, parce que pour se faire du fric, il faut être dans la boucle, dans les réseaux, ce que n'est pas l'État. Donc ça, c'est une bille pesée. On gagnera rien, par contre, on va perdre les fragonards, enfin bref, tout notre patrimoine. Bon, notons, alors on va revenir à la beauté, que dans ce sondage, Aude, 55% des sondés attendent de la contemplation d'une œuvre d'art qu'elle procure des émotions positives, contre 26% qui veulent être choqués. Il y a quand même 26% de maso rentrent en connivence avec les obsessions de Lassé, parce que Lassé, l'art très très contemporain, il adore choquer. Bon. Et il y a quand même 68% de gens qui attribuent à l'art des vertus thérapeutiques. Eh bien, Aude, c'est pour cela qu'a été écrit « Bien fait du beau ». Et puis pour les autres aussi, qui ignorent ce qu'ils manquent. Bon. Et « Bien fait du beau », c'est le troisième livre de ma saga sur la beauté, qui paraîtra chez Bollène le 18 mars. Et je vous renvoie au blog surgins.fr pour découvrir la couverture. Je signale que j'animerai une conférence de présentation illustrée de projection à la librairie Bollène, qui se situe 41 rue de Bourgogne à Paris 7e, c'est la librairie de l'éditeur, donc il y a toujours des livres évidemment à disposition à la librairie Bollène, et cela se passera le mardi 24 mars à 17h précise. Alors l'entrée est libre, mais sur réservation, parce qu'évidemment la librairie c'est pas une grande salle de spectacle, et donc réservation par mail, et pour cela vous allez sur le blog surgins.fr, donc SOURGINS.fr à la rubrique conférence dédicace. Voilà, Aude, vous savez tout.
Je sais tout. Alors, il faut dire que quand vous faites une conférence, vous montrez des images.
Oui,
et
bien sûr.
Que donc c'est une occasion de voir. Votre livre n'est pas illustré.
Non,
donc,
mais...
venir à la conférence permet de voir les images dont vous parlez dans votre livre. Voilà.
Tout à fait. Mais alors, il n'est pas illustré, mais les exemples sont prioritairement pris du côté de la peinture. Or, maintenant, avec Internet, c'est quand même très facile, une fois qu'on a le nom de l'artiste et le titre du tableau, de voir apparaître le tableau.
Sur le téléphone qui est dans votre poche, vous voyez tout de suite de quoi il s'agit.
Voilà.
Et ça permet en sorte que ce soit un livre abordable, parce que dès qu'il y a des photos, le livre pèse lourd et il est inabordable.
Inabordable, absolument.
Donc, moi, je suis pour qu'il n'y ait pas forcément...
Contre, pour aller dans votre sens, je montrerai dans cette conférence qui va présenter « Bien fait du beau », par exemple, des photos d'architecture. Et il est vrai... Alors, le problème, quand on fait référence à une architecture, c'est que souvent, selon l'angle de la photo, on ne voit pas la même chose. Donc, c'est sûr que je vous ferai remarquer quelque chose verbalement que je n'ai pas pu écrire dans le livre, parce qu'il aurait fallu que, sur Internet, en tapant... le nom de cette architecture, vous tombiez sur le... C'est tout le problème quand on veut donner des références dans l'architecture. C'est pareil quand on veut faire une référence dans la musique, parce que si on... Vous vous rendez compte, il faudrait que la personne, elle écoute une partie de la symphonie pour tomber sur le passage qu'elle... C'est pas possible. C'est pour ça que la peinture, effectivement, est l'idéal pour donner un certain nombre d'indications.
En tout cas, merci Christine de cet immense travail que vous avez fait et du travail que vous faites tous les mois pour nous parler de l'actualité. Et je dois dire que cette parution dans Beaux-Arts cette revue très subventionnée par le ministère, de ces statistiques est à mourir de rire. Et totalement, je dirais, c'est de la confusion cognitive à toutes les lignes. Mais ce n'est pas la première fois. Il y en a eu d'autres parce qu'ils sont, ils le font de temps en temps. Hein, c'est pour dire que quelle est oui, l'opinion des Français sur...
Aussi, hein, c'est pas un monopole d'une revue particulière. Mmh. Mais oui, l'art contemporain, l'art contemporain aime bien sidérer.
Non, et puis donc, il y a plusieurs possibilités de comprendre cet assemblage de deux mots. Voilà. Disons que c'est une expression bifide.
Oui, tout à fait. C'est un mot piégé.
Et confusionnel, oui.
Et confusion, d'abord parce que l'art contemporain, quand même, quand on, le père fondateur, c'est Duchamp, et l'objet fondateur, c'est Fontaine, qui date de 1917. Donc, vous avez un art contemporain qui est plus que centenaire.
Ouais.
Donc déjà, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'appellation. Là, il y a un surplace qui est tout à fait étonnant.
Oui, et ça, y a beaucoup de gens qui ne voient pas la différence entre art moderne et art contemporain, encore aujourd'hui, et même dans les élites et les gens cultivés.
Oui.
C'est assez extraordinaire.
Parce que c'est vrai que quand on a commencé à analyser l'art contemporain, on se dit, c'est terrible, vous attaquez l'art moderne. Pas du tout. Pas du tout. La césure n'est pas entre. La césure est entre l'art plus l'art moderne et la rupture après intervient avec l'art contemporain.
La différence.
Alors c'est pas tout à fait. Là où c'est troublant, c'est que c'est pas. C'est que
les frontières sont imprécises parfois.
Ben oui, parce qu'en fait, le coup d'envoi de cet art contemporain, 1917, le grand art moderne est encore en train de est encore en ébullition. Il y a encore des mouvements, le surréalisme va apparaître, etc. Il y a encore des mouvements.
Mais
l'art
tous
moderne
les courants,
n'a pas fini,
tous les
n'a
courants
pas fini
sont
de fructifier. Mais tous les courants sont là, exactement. Et vous avez quelque chose qui, pendant très longtemps, va se développer au flanc de ce grand art moderne, un peu en veilleuse, et qui va prendre, par contre, son envol dans les années 60. Il y a une date intéressante, c'est 63, c'est la mort de Jacques Villon, qui était le frère de Duchamp, qui était un très bon peintre cubiste. Hein. Et de son vivant, Jacques Villon est beaucoup plus célèbre que Marcel Duchamp, que son frère. Et à la mort du peintre Villon en 63, eh bien son nom commence à rentrer dans l'oubli, alors que l'étoile de Duchamp, au contraire, s'élance au firmament de l'art.
Ouais.
Et il devient là où il y a un effet de ciseau en quelque sorte.
Et il devient pape de l'art contemporain, alors qu'il s'en fiche éperdument. C'est pas du tout.
Ah oui, ben ça,
c'est pas du tout son problème. Oui.
Non, j'avais écrit un article en disant que tous ceux qui se réclamaient du Duchamp l'avaient trahi. Il y a un petit exemple très simple, c'est les ready-made. Duchamp a fait très peu de ready-made. Hein. Il était très parcimonieux, il n'usait pas le concept de ready-made. Mmh. Alors que maintenant, on ready-madeise à tour de bras. Hein, c'est, Là, il y a effectivement une trahison. Duchamp aussi avait fait quelque chose de très bien, c'est qu'il avait parlé d'anarchiste et d'anarchisme.
Absolument.
Et là, c'était fabuleux parce que ça permettait de distinguer une nouvelle branche artistique qui était l'anarchisme avec des détournements, avec des ready-made, avec des performances, avec tout ce que vous voulez. Et puis de l'autre côté, les artistes auraient continué à faire de l'art. Mais non, on n'a pas écouté Duchamp. On a repris ce mot d'art et d'artiste, évidemment pour toucher les dividendes d'un phénomène qui était installé depuis des siècles. Et c'est là que la confusion générale est arrivée.
Alors, il y a aussi quelque chose qu'il faut dire, parce que sinon on ne comprend pas, c'est que tous les courants de l'art moderne sont là avant 1914, y compris ce petit courant qui est l'art conceptuel, qui n'est pas de l'abstraction. Bon, donc cet art conceptuel de Duchamp, etc. Et cet art conceptuel, on va le retrouver comme un petit courant qui continue avec tous les autres courants.
C'est la route bicyclette.
Voilà, c'est la petite route.
1913.
Voilà, et qui va avoir des différents auteurs. Pas beaucoup, enfin, c'est pas immense. Et il y a, dans l'art moderne, une diversité extraordinaire, et surtout, tout est là en même temps. C'est ça, c'est, mm-hmm. c'est pas des avant-gardes qui se succèdent. Mm-hmm. C'est, ils sont toujours là en même temps. Il y aura toujours de l'art abstrait, de l'art figuratif, de l'art néo-souci.
Oui, le cubisme va être un courant qui va durer un certain nombre de temps, qui va d'ailleurs faire une bonne partie, le tour de la planète, hein, quasiment. Hein. Mm-hmm. Il va y avoir des cubistes un peu partout sur la planète. Enfin, effectivement, oui.
Et alors, la différence avec l'art contemporain, c'est que l'art contemporain, c'est une théorie. C'est une idéologie bien précise. Et donc, cette théorie, elle s'impose, mais elle ne s'impose pas d'une façon naturelle. Elle s'impose, je dirais, avec des grands moyens, avec une intention politique derrière, etc. Et elle va, grâce aux mass médias, qui donnent une idée de la réalité qui est celle qui est choisie et qui invisibilise tout ce qui n'est pas tout ce qu'on ne veut pas montrer. Et donc, pendant les 50
surtout
ans...
Surtout en France.
Et oui, les 50 années qui vont suivre...
L'État s'est rangé de ce côté-là, effectivement. Oui. Oui.
Dans les 50 années qui vont suivre, vous avez donc tous les courants qui continuent de l'art moderne et qui se transforment, qui se métamorphosent et qui se mélangent, qui se... Il y a toutes sortes d'hybridations qui se font. Il y a l'art de tous les continents qui se mélange à tout ça. Mais pas visible, puisque ces masses médias ne montrent que ce qui est officiel en France. Vous avez raison. Mmh. Et ce n'est que depuis la concurrence de la visibilité numérique que les choses se désagrègent. Et c'est à quoi nous assistons en ce moment. Merci, chère Christine, pour tout ce travail que vous faites pour nous et qui nous montre, qui nous permet d'y voir un peu plus clair. Et donc, chers auditeurs, je vous retrouve dans un mois.
Vous venez d'entendre le Libre Journal d'Aude de Kéros, émission préenregistrée le 2 mars 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie jeudi 12 mars, de midi à 13h30 et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.